Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Gelozo, Du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, francphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis.
Ouais, salut, va te prendre un Trio économique, s'il te plaît.
Bon, ben justement, commençons pendant que les absents ont toujours tort, comme on dit. C'est ça.
Damn la right.
Fait que, comme Yann n'est pas là, ben on peut dire du mal de lui. Hein,
on peut dire toutes les choses du monde, notamment que Yann est un fan secret d'Olivier Niquet. Il s'arrange pour dire des choses pour qu'Olivier Niquet parle de lui. Parce qu'au fond de ses tripes, Yann, tout ce qu'il veut, c'est comme une sorte de relation sadomasochiste où
c'est
il se fait maltraiter par Olivier Niquet puis il en veut plus.
Ouais. Mais j'en reviens pas quand même. Plus à y avoir pensé, j'aurais mis l'extrait dans ma console. Là. Mais j'en reviens pas d'avoir passé dans sa patente.
Ouais, c'est vrai, t'es passé dans son truc cette semaine.
En plus, juste pour expliquer aux gens, puis peut-être je le rajouterai au montage, là, l'extrait qui était passé. Là. Mais l'extrait qu'ils ont passé, c'est carrément un montage. Ben en fait, ils font un montage de deux histoires différentes. Parce que là, ils disent, tu sais, dans le fond, eux autres, ils parlaient de finalement Patrick Roy, qui avait des rumeurs qu'il serait DG ou coach du Canadien. Finalement, ça se matérialise pas parce que, tu sais, c'est un gars qui est colérique et tout. Et puis, ils prennent un extrait d'un segment que je me rappelle plus du tout. Ça date de quand, mais je parlais d'une équipe de hockey qui avait réembauché Bruce Boudreau. Et puis je disais que je n'étais pas sûr, tu sais, qu'un coach de la vieille garde comme ça, qui est connu pour des montées de lait, puis péter des bâtons, puis des trucs de même, que c'était super bon. Puis là, j'ai utilisé le mot woke, mais l'idée, c'était que à ce moment-là, le coach des Maple Leafs de Toronto venait de se faire mettre dehors sous prétexte que les joueurs avaient de la peine quand ils leur parlaient rough. Puis, tu sais, c'était un peu une boutade. Je disais ça dans le sens que je ne suis pas sûr que dans le contexte d'aujourd'hui, un bonhomme de la vieille garde, c'est une bonne idée de rembaucher ça d'une équipe de hockey. Eux, ils ont pris ça, puis ils ont comme présenté, comme si je parlais de Patrick. Là, ils sont même pas capables de prendre finalement un extrait complet de quelque chose pour faire dire une idée. Bref, ça monte un peu le niveau.
Ouais, mais en même temps, le mot « woke », là, puisqu'on parle de ça, on dirait que c'est rendu... Tu te rappelles, pendant une couple de jours, après que Donald Trump était élu, « fake news », c'était un terme qui avait d'être utilisé de manière assez neutre.
Mm.
Puis après ça, ben Trump a coopté ça, parce que des gens de gauche ont essayé de le coopter en ridiculisant, parce que lui disait « fake news », mais après ça, tu pouvais trouver un journaliste qui disait, tu sais, qui fait les « air quotes »« fake news » pour rire de lui. J'ai l'impression que le mot « woke » est en train d'avoir exactement la même chose maintenant, que c'est rendu un mot qui est plus un descriptif très utile, un peu comme si tu disais que tous les gens de gauche étaient des communistes ou tous les gens de droite étaient des membres du Front National en France. C'est rendu tellement juste des mots pour crêper le chignon. Moi, je sais qu'est-ce que tu voulais dire, parce que j'ai compris. Tu l'as expliqué quand on parlait avec Yann, mais je veux dire, je te connais assez pour savoir que c'est probablement pas ça que tu as dit. Là. puis je vais te prendre ta parole que c'est pas ça que tu as dit. Là. Je veux dire, j'ai pas vu toute la clip de ce que toi t'as dit, j'ai juste eu la clip qui a été pris. Mais ces genres d'affaires-là, là, c'est vraiment rendu déplaisant, l'espèce de...
Ouais. Mais parce qu'en plus, de la manière dont ça a été présenté, on dirait que ce qu'il voulait me faire dire, c'était que j'étais nostalgique de l'époque où les coachs, dans le fond, battaient des joueurs ou en tout cas étaient violents. Puis là, j'étais comme, mais J'ai jamais dit ça. En tout cas, bref.
Ouais, mais tu sais, en même temps, regarde, je vais te donner. C'est parce que c'est ça. Là, c'est... Je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a un scandale ici aux États-Unis là, avec un collègue à moi qui s'appelle Ilya Shapiro, qui est un avocat et qui est professeur à Georgetown. Et il a écrit un commentaire sur la nomination d'un juge remplaçant à la Cour suprême pour remplacer Stephen Breyer.
Ah oui, le gars que Biden a... Ouais, ouais.
Ouais, ben là, puis Biden a dit qu'il voulait nommer une femme noire.
Mm.
Shapiro, qui est free market, libertarien, a fait un commentaire qui était mal écrit, mais que tu prends 2 secondes pour y penser, puis tu sais que c'est pas ça qu'il a dit, mais il a dit... Il dit « Le meilleur juge que la gauche a présentement, c'est cette fille-là. Puis ça serait probablement la meilleure juge de loin, de loin. » Puis là, il explique tout son... Pendant tout le long du texte, il explique pourquoi ça serait une excellente candidate. Mais après ça, il dit « N'importe qui d'autre serait un lesser candidate. » Mais comme Biden voulait, a dit qu'il voulait une femme noire, lui a dit « lesser black candidate. » Là, c'est très mal écrit. Tu comprends comment ça peut être vu de manière offensante. Mais le reste du texte ne fait pas du tout avec cette association parce que la femme qu'il mentionne est une femme indienne. Mm-hmm. Donc, tu peux pas vraiment dire le raciste. Tu peux dire, OK, regarde, tu aurais pu mieux t'exprimer. Là, t'aurais pu. Mais là, il y a des gens qui se sont mis vraiment à attaquer Shapiro et à demander qu'il fasse retirer sa position à Georgetown. Puis il y a des étudiants. Puis c'est là que tu vois que woke apparaît vraiment comme un truc que là, tu peux rire. Il y a des étudiants qui ont dit, ben ça nous blesse dans nos émotions, dans les cours, et naturellement, on aimerait une dispensation pour le temps qu'on a manifesté contre professeur Shapiro. On aimerait ça avoir des crédits supplémentaires pour rattraper. Puis là, tu es là, OK, non, là, il y a de la bullshit qui se fait, là. Tu demandes des crédits supplémentaires pour avoir manifesté contre un prof qui s'est mal exprimé. Hey, c'est de l'exagération comme faux. Là, ça, c'est comme le woke qui est déplaisant. Mais toi, de ce que j'ai compris que tu as décrit, c'était une autre alternative où, ben, à un moment donné, les pratiques des années 40, 50, 60, 70, où tu as un gros fier à bras qui casse un meuble pour faire son point, ça ne passe plus aujourd'hui. Ben, c'est aussi un bon point. Je trouve pas que c'est wow, mais j'ai compris dans quel contexte tu dis ça. Puis on dirait que les gens maintenant veulent juste comme trouver la version la pire possible de la personne avec qui ils sont en désaccord et pas essayer de dire qu'est-ce qu'il essayait de dire vraiment. Shapiro essayait de dire quelque chose.
C'est
comme ça qu'il voulait le dire. Toi, tu as utilisé le mot woke de manière sarcastique parce que je comprends pour faire un point. Mais on dirait que maintenant, de nos jours, c'est vraiment intéressant de prendre une personne et de présumer que tout ce qu'elle dit, parce qu'elle n'est pas de ton bord de la clôture, c'est naturellement une mauvaise personne. Puis c'est intéressant que dans le processus, ça te sert un tout petit peu à toi, que c'est utile pour toi, c'est self-serving de chier sur cette personne-là à toute fin pratique.
Ouais, wow, puis tu sais, Yann vient de se joindre à nous autres. On le salue, fait que là, ça va qu'on va commencer à déraper à partir d'ici. Mais tu sais, ce que j'allais dire... Avant qu'on rentre dans un sujet qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est que, tu sais, à un moment donné, là, essayer de prendre tout le monde pour leur faire des procès d'intention. Tu sais, moi, je trouve qu'à un moment donné, si tu fais l'effort 3 secondes là, de prendre le propos que quelqu'un dit, puis de l'analyser sans être trop dans l'émotion, tu vois bien que la personne, ce qu'elle a voulu dire, c'était pas ce que tu lis de manière littérale quand tu prends le contexte. Puis, tu sais, Je veux pas te défendre cette personne-là, là, mais je voyais cette semaine une fille là, qui a perdu sa job dans les médias aux États-Unis. J'oublie son nom, là, mais j'ai envoyé...
Whoopi Goldberg.
Ouais, Whoopi Goldberg. Quand tu t'écoutes le truc au complet, tu comprends ce qu'elle veut dire. C'est sûr qu'à partir du moment que tu prends juste la phrase, puisque la phrase c'était le génocide ou l'Holocauste n'est pas un acte raciste. Là, tu dis.
Non, regarde, tu vois, elle dit que c'était parce que ce qu'elle a dit qui crée le scandale aux États-Unis, c'est qu'elle a dit que c'était pas la même chose parce que c'était pas des, c'était des Blancs contre des Blancs. Donc, dans ce cas-là, tu peux pas dire que c'est du racisme. Et là, t'es là comme, ben là, écoute, là, come on, c'est un peu ridicule. Tu réalises-tu à quel point c'est ridicule?
Ah oui, c'est ridicule.
Mais par contre, ce qu'on peut pas dire, c'est que, OK, regarde, t'es une cruche. Clairement, tu comprends.
Exact.
Tu connais clairement pas le sujet sur lequel tu parles. Surtout que, dans le temps, pour eux, la définition était une définition raciale. Mais ton point que, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit, regarde, elle fait de la négation de l'Holocauste? Non.
Attends, ouais, c'est ça mon point.
C'est pas la même chose, là. Et clairement, elle ne sait rien sur le sujet. Elle fait juste faire un commentaire. Puis c'est vraiment un commentaire très stupide. Mais en dire que c'est un commentaire stupide, puis la dire qu'elle était une négationniste, là, come on, là. C'est ridicule. C'est pas la même chose. Être une conne, ce qui est tout à fait possible, puis être une négationniste. Bon, écoute, attends, la relation étant non équivalentielle, c'est tout à fait possible d'être un... En fait, si tu es négationniste, tu es probablement un imbécile. Mais c'est pas parce que tu es un imbécile que tu es négationniste. L'équivalence logique va d'une direction à l'autre automatiquement, mais pas de l'autre vers l'une.
Non, mais tu sais, moi, ces trucs-là, je trouve ça insupportable. C'est comme quand Yann t'avait dit... Yann, un moment donné, il dit, ben candidement, il dit, ben là, il y a une campagne actuellement des médias qui a complètement scrappé la crédibilité d'AstraZeneca. Je sais pas pourquoi exactement, mais c'est un vaccin qui est bien correct. Si vous autres, vous en voulez pas, donnons-le à des gens qui en ont pas. Ben, c'est ça, Yann, il veut donner des vaccins pas bons à du monde pour les eugénisme. Là, t'es là, mais êtes-vous malade?
Ah non, mais c'est plus facile, c'est tellement facile de présumer, tu sais, que la personne est méchante. Puis moi, j'ai en fait, il y a une sorte de ranking que...
Surtout dans mon cas.
Que j'aime développer. C'est que si t'es une personne qui parle fréquemment dans les médias, on devrait te juger sur ton pattern général de comportement. D'accord. Si en général, t'es généreux, puis que tu dis des choses, tu sais, qui sont X, Y, Z, mais que par accident, ça a l'air que t'as dit B, ben on devrait présumer que tu as dit quelque chose qui rentre dans le set X, Y, Z, pas dans le set A, B, C, mettons. Ben ça, c'est la première manière que tu devrais juger. Si, par contre, la personne a un pattern de mauvaise foi, de diffamation, d'attaque personnelle, d'ad hominem, là, tu devrais le prendre à une coche plus bas, puis tu devrais présumer que probablement que si elle a dit quelque chose d'offensant, c'était peut-être même voulu. Puis, moins tu es connu médiatiquement, moins tu devrais être puni pour dire quelque chose si ça a l'air clairement maladroit. Fait que c'est un peu comme, mettons, un vox pop où tu prends des gens qui ne parlent jamais aux médias, puis tu essaies de rire de ces gens-là. J'ai toujours trouvé les vox pop, surtout ceux que Guy Nantel faisait, absolument offensant parce que les gens ont, tu sais...
Ben à la base, le vox pop, c'est l'acte journalistique le plus...
déplaisant qui existe.
Écoute, c'est malveillant, c'est malsain. Puis même si tu fais bien paraître les gens à l'intérieur, c'est que tu es en train de manipuler l'information les deux mains dedans.
Ah oui, puis tu sais, en médecine, tu as un truc qui s'appelle le syndrome du sarrau. Mais ça existe aussi pour monsieur, madame, tout le monde avec les caméras. Il y a des gens que... Tu sais, les gens qui sont dans les médias oublient ça. Là. Vous avez des caméras, des micros toute la journée. Là.
Ah, mais il y a des...
Vous le voyez plus. Si tu arrêtes quelqu'un dans la rue qui n'a jamais été interviewé par un journaliste, ça, tu fous un micro en dessous du nez et tu dis « Hey, en quelle année le premier référendum sur l'indépendance du Québec? » Ça se peut que la personne est stressée et elle te réponde 1972. T'es-tu obligé après de faire un montage pour montrer que cette personne-là est un imbécile? Là?
Non, en effet. Puis non seulement ça, mais ça ne dit pas grand-chose sur le niveau de connaissance civique en tant que tel. C'est pas de se rappeler des dates, ça veut pas, c'est pas excessivement profond comme test. Mais les vox pop, la partie qui me dérange le plus, c'est que des fois, la personne, puis souvent, tu lis la personne, puis tu te dis, le Journal de Montréal faisait ça souvent, prenait comme 10-15 personnes. Des fois, il y avait toujours une phrase vraiment étrange qui apparaissait. Mais tu prends le temps de penser puis tu vois qu'est-ce que la personne essayait de dire. Peut-être qu'elle confond genre une moyenne avec une variance.
Juste une fois au chalet.
Une fois mais des phrases comme ça, tu sais, que tu es là comme la personne dit quelque chose de ridicule, mais que tu comprends qu'est-ce qu'elle essaye de dire. Si tu t'imagines que c'est pas quelqu'un qui fait du commentaire de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Ça, là, c'est le vox pop quand tu prends une personne, à moins que la personne dise quelque chose qui est explicitement sans ambiguïté atroce, comme par exemple, je déteste tous ces gens-là, ce sont tous parce que X ou Y, je les déteste parce que ça. Puis, OK, d'accord, cette personne-là, ouais. Ça, c'est un imbécile, puis ça, c'est... Mais en même temps, une fois que cette personne... Hormis ce genre de personnes-là, souvent, les vox pop ou une personne a l'air stupide dans un vox pop, c'est soit qu'elle est frigorifiée par la caméra, ce qui est souvent le cas, ou que elle sent l'obligation de dire quelque chose sur un sujet qu'elle n'a pas vraiment le temps de penser, puis... stress, anxiété de devoir répondre.
Je pense que
c'est la première phrase. Puis que c'est pas nécessaire. Si la personne, tu la laissais, tu sais, tu discutais avec elle, puis tu lui faisais réfléchir au sujet, probablement qu'elle approcherait une position beaucoup plus raisonnable. Les gens sont généralement plus de bonne foi que ce qu'on réalise. Donc, honnêtement, les vox pop, c'est vraiment une des choses les plus dégueulasses qu'il n'y a pas. Ça, puis les lignes ouvertes. Je déteste les lignes ouvertes. À la radio où tu demandes à la personne en 4 secondes de dire une opinion. Ça, j'ai toujours trouvé ça hautement déplaisant.
C'est pour ça aussi que, tu sais, quand on prend des. Quand les gens, mettons, attaquent d'autres personnes puis prennent des petits bouts complètement hors contexte d'un podcast de 3 heures ou. Tu sais, puis on y reviendra, ça peut-être dans la partie bonus pour le monde Patreon avec ce qui se passe avec Joe Rogan. Aux États-Unis. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu as des centaines et des centaines et des centaines d'heures de podcast. Tu prends 2 phrases, tu mets ça sur écrit, tu fais une affiche avec ça pour mettre ses réseaux sociaux. Puis là, c'est censé résumer l'entièreté de la carrière de quelqu'un ou des propos de quelqu'un. Alors que si tu te donnes la peine d'écouter dans le concret ce que les personnes disent, tu vois très bien ce que les gens ont voulu dire, puis ce qui a été exprimé là, puis généralement, ça dégonfle ta balloune en 3 secondes. Là. Mais c'est comme disait Edward Snowden, il n'y a personne qui a une opinion plus forte sur Joe Rogan que les gens qui n'ont jamais écouté Joe Rogan.
Aussi, combien d'épisodes il fait par semaine? Moi, je l'écoute
par jour, je pense. Hein?
C'est un par jour. Moi, je l'écoute sporadiquement. J'en ai peut-être écouté une 40aine de ces épisodes. Pas au complet tout le temps. Des fois, je me tanne après une demi-heure, puis j'ai compris où ça s'en va. Mais j'en ai écouté... Il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'était avec... je pense que j'en ai déjà parlé ici. L'ancien joueur, l'ancien musicien blues afro-américain.
Oui, oui, oui.
Qui, lui, essaye de convaincre des gens du Ku Klux Klan d'abandonner le Ku Klux Klan. Et le gars, là, c'est un storyteller. Sérieusement, cette conversation-là, c'était une des affaires que j'ai écoutées. Je conduisais, puis j'écoutais ça, puis j'étais... Ça, c'est un des meilleurs podcasts que j'ai jamais écouté de ma vie. Juste parce que, hey, t'en apprends sur, un, le clan, c'est quelque chose qui n'est pas généralement public, puis que c'est un gars noir qui a réussi à approcher des hauts rankings du Ku Klux Klan, leur parler... leur faire expliquer l'histoire du clan, comment ils sont devenus membres, les a humanisés, puis après ça, s'est humanisé auprès d'eux.
À base, le gars, il avait des couilles pareilles.
Ben, écoute, sérieusement, ce gars-là, dans la liste de c'est quoi un héros sur Terre, le gars, c'est un héros, là.
Mais bon,
le doux. Puis, hey, écoute, c'est...
Mais tu sais, quelqu'un qui s'est donné...
I hear metal sounds. They're coming from your pants. They're like orbs clashing. Big brass balls. God bless you.
Mais tu sais, quelqu'un qui s'est donné à peine de faire ce que t'as fait, Vincent, là, un peu par hasard ou par intérêt, tu peux pas, après ça, aller sur les réseaux sociaux et dire « Ouais, Joe Rogan, c'est un suprémaciste blanc. »
Ben non.
T'sais,
ben
je veux dire, mais regarde les Patreons qu'on a. Frank, sérieusement, il nous dit c'est à peu près toute la même affaire, ceux qui sont de la région de Montréal. Hey, je suis vraiment content de nous avoir découvert. Il y en a qui nous ont découvert avec Jeff Fillion. Il y en a qui nous ont découvert à cause de YouTube et tout ça. Puis la plupart, ils disent toutes la même chose. J'avais des gros préjugés envers Radio X, encore plus envers Jeff Fillion. Je vous connaissais pas, vous autres, mais je suis agréablement surpris de ce que j'entends. J'avais jamais imaginé ça.
Oui, puis il y a non seulement ça, mais des choix d'envie, là. C'est pas des choix tout le temps discrets, ça peut être des choix continus. Tu es capable de prendre puis en laisser, tu n'es pas obligé de prendre Radio X au complet, puis c'est soit Radio X et rien d'autre, ou tu peux mélanger. Écoute,
y a-t-il quelqu'un ici qui pense réellement que j'ai jamais dit niaiserie dans le trio économique?
Ben là, ceux qui écoutaient, ceux. Ben là.
Si t'écoutes, en fait, je pense que la prémisse du trio économique, c'est que moi et Frank, on ceux qui produisent le contenu. Toi, t'es là juste pour rire. Faire dérailler ça souvent.
Hey, dis-le, toi, j'ai eu A+ en microéconomie dans mes études. Je suis une bête d'économie.
Ah, et puis j'ai des journalistes qui ont été de mes étudiants quand j'étais au Québec. Puis ils ont eu des A dans mon cours. C'est facile, le premier cours d'économie.
Ouais, mais c'est parce que tu voulais pas qu'ils coulent pour qu'ils reviennent dans le cours.
Écoute, ben peut-être que non seulement je voulais pas qu'ils progressent, mais je me suis dit, je vais m'assurer de plus jamais les voir. Mais non, c'est pas ça que j'ai fait. Mais sans niaiser Yann, là, c'est tout à fait possible. Moi, j'écoute, tu sais, quand j'écoute une multitude de différentes affaires, puis c'est pas toujours les mêmes choses. Je me déplace de RTL en France à NPR aux États-Unis. Des fois, j'écoute la BBC. Des fois, j'écoute Radio X. Des fois, j'écoute Radio-Canada. Des fois, j'écoute Joe Rogan. J'écoute Reason Podcast. J'écoute CNN des fois. Si t'es capable
d'arriver... T'es un des 0,1% de la population qui les écoute.
Peut-être,
hey, t'as-tu vu le code d'écoute, sérieusement? C'est hallucinant.
Écoute, quand les gens disaient que les codes d'écoute... J'ai regardé ce matin, quand les codes d'écoute ont baissé, ils disaient, c'est sûrement un truc ridicule. Non, ça a vraiment baissé de 80%. Là,
c'est malade.
Puis toutes les autres chaînes, puis tu dis, OK, c'est parce que c'est l'année post-électorale, c'est un peu normal que ça baisse. Il y a toujours un pic dans les médias, mais la baisse proportionnelle, par exemple, pour MSNBC, c'est comme 40%. Fox News, c'est 50%. Eux, c'est 80% d'une base plus basse.
Oui, c'est ça.
Ce qui est assez phénoménal.
Il n'y a même pas un million de spectateurs. Tu te dis, attends un peu, là. Vous n'avez pas un million de téléspectateurs. Je veux dire, vous êtes 330 millions.
Et tu es en train de dire qu'il y a moins de gens qui écoutent ça que tout le monde en parle? Non, excuse.
Non, mais je sais pas c'est quoi la... Ça doit être 100 millions. Je peux pas croire que c'est juste ça. Il doit y avoir au moins un 10 millions d'Américains qui écoutent CNN.
Non, je trouvais les chiffres. L'article que j'ai vu, c'était 1 million. Là.
Hey! Moi, ce que j'ai vu, c'était un index. Donc, ce qu'il disait, c'était, dans le graphique, c'était indexé à une certaine année de base. Puis après ça, il disait le ratio de un et chacun relativement à l'autre à la fin. Donc, c'était genre, tu avais deux panels au graphique. C'est pas important.
Ouais.
Mais sérieusement, tu peux diviser ta... Là, pour revenir à ce qu'on disait, tu devrais diviser ta consommation médiatique. Non seulement ça, mais si tu es moindrement généreux avec les gens...
Avec
les
ici, là. Le réseau d'information câblé dirigé par Jeff Zucker n'a attiré en moyenne que 548 000 téléspectateurs au cours de la semaine du 3 janvier.
Une baisse... Oh, par bloc de 15 minutes, là.
Ouais.
OK. Hey, c'est trash.
C'est une catastrophe.
Hey, non, mais pour eux. Moi,
c'est 90% la baisse.
Hey, non, mais attends, pense-y deux secondes. C'est 548 000, t'as dit?
Ouais.
Il y a 335 millions d'Américains. D'âge adulte, les Américains ont un petit peu plus d'enfants, donc disons que 200 millions d'adultes. Tu es en train de me dire que moins d'un quart de pourcent d'Américains d'âge adulte écoutent CNN.
Mm-hmm.
Tu sais, juste qu'on répète, le quart d'un pourcent,
mm-hmm.
C'est...
Ouais, mais écoute, on y reviendra, on y reviendra dans la partie Patreon, mais moi, je pense que c'est ça qui... une des raisons d'élever de bouclier contre des gars comme Joe Rogan, c'est celle-là. Les médias traditionnels, il y en a qui sont en train de crever, puis il y a des podcasters qui n'étaient pas des inconnus dans son cas, mais qui n'étaient pas du tout un gars de médias à base, qui sont en train de manger leur lunch et solidement. Il y a plus de gens dans une semaine qui écoutent un podcast complet de Joe Rogan, qui écoutent 15 minutes de
CNN. C'est 11 millions de subscribers.
C'est ça la l'histoire.
Gardons-nous Joe Rogan pour la partie Patreon.
Tu connais JC, Vincent? Le gars à TVA Sport. Non, je sais que tu n'es pas un gars de sport, tu ne peux pas le connaître, c'est pas ta tête. Mais. Non, mais.
En gros, ton line-up pour la question, c'était une manière de me dire que j'étais un petit gros, c'est ça? C'est ça, hein?
Regarde, si tu veux aller là, pas de trouble.
Non, je voulais juste que ça soit, je voulais juste que ça soit clair que t'as prétendu que tu posais une question pour m'insulter.
Non, on arrête ça là. Je viens de t'imaginer en legging. Fait que non, on change de
sujet. Oh, moi, ça me fait mal, ça.
Non, mais c'est, je vais trouver les chiffres pendant que je te parle, mais dans les coulisses.com, avait sorti les ratings de GC. TVA Sport, là, tu sais, je veux dire, c'est une émission de sport du Canadien qui discute, il y a des invités, il y a surtout des gros salaires. Là. Puis on n'avait pas pété le 6000 dans une émission. Tu sais, je veux dire, juste donner une idée, là. Les gens s'excitent ces temps-ci à Radio X, là, de la station, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'écoute Internet que d'habitude. Ils ont rajouté un autre serveur cette semaine. Puis, Jeff, je pense qu'il a dépassé le 13 000 écoutes en ligne cette semaine. Mais ça exclut toutes les radios FM. Là. C'est juste l'écoute en ligne. Ça écoute tout ça exclut tout le on-demand et tout ça. Là. C'est pas un réseau national. Là, GC, c'est national. C'est TVA Sport. C'est les gros salaires. C'était quelque chose comme 6 000. Je vais trouver le chiffre, là, mais c'est fréquent.
Ah, mais c'est... Hey, ça, pour les coûts fixes que tu as à recouvrir quand tu es une chaîne de télévision,
ah non, c'est...
Tu couvres même pas la moitié. Tu peux pas imaginer que tu couvres quoi que ce soit de tes coûts fixes. Là.
Ah non, c'est clair. On s'aligne-tu à... Ça, c'est notre moyenne d'habitude, 20-25 minutes à déraper avant de commencer. Vincent, tu nous envoies...
Il faut bien qu'on parle un peu d'actualité.
Ben oui, c'est vrai. On peut. Ben, on va y revenir. C'est une quarantaine de minutes dans la partie pour le monde sur Patreon. Il y a une couple de podcasts, Vincent. On a rendu hommage à Germain Belzile, ton mentor. Je pense qu'on peut dire ça. C'est pas du tout
Un des mentors
que tu as eu dans ta carrière, tu sais, c'est un bon podcast. Si les gens n'ont pas écouté, je les suggère de retourner dans la liste des podcasts disponibles, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming, ils peuvent aller l'écouter, c'était bien intéressant. Mais tu nous as envoyé, parce que moi je trouve ça intéressant, parce que là on est vraiment directement dans les mythes fondateurs du modèle québécois, comme on pourrait dire. Vous avez écrit un article, vous avez co-signé un article. En fait, vous étiez trois, je pense, trois auteurs.
Ouais.
Puis vous avez co-signé un article qui parle justement de la nationalisation ben, c'est un propos plus général sur l'interventionnisme, de ce que je comprends, mais c'était des études de cas, dans le fond, sur la nationalisation de l'électricité au Québec et en Ontario. À partir des années 40, si ma mémoire est bonne. Puis, dans le fond, c'est ça, vous arrivez quand même à une conclusion qu'on n'est pas tout à fait habitué d'entendre. Parce qu'ici, dans le roman national québécois, c'est un peu l'acte fondateur de la modernité, là, si je peux dire. Tu sais, il y a en France, c'est la prise de la Bastille, puis ici, c'est la nationalisation de l'électricité. Puis je caricature à peine, honnêtement. Là, c'est pour beaucoup de gens.
Je pense pas que c'est une caricature. Je pense que c'est pas la.
Hey, juste avant que tu parles pour ton monologue habituel, là, parce qu'on fait nos recherches en live, nous autres, là. Je me suis pas trompé de chiffre, c'est bien 6 000 pour
GC.
Aïe, aïe.
C'est sauvage, ça. Mais écoute, je vais y aller bien vite, là, parce que Yann vient de me faire sentir self-conscious. Puis, tu sais, je suis une petite bête avec des émotions. Fait que je vais pleurer. Yann, il va me timer, check là. En gros, oui, c'est exactement ça. C'est Germain et moi, on avait commencé à travailler sur ça en 2017. On avait fait un premier article qui avait été publié. Puis on montrait que quand tu regardais l'électricité au Québec avant la nationalisation, toutes les mythes sur le fait que c'était des monopoles qui abusaient les consommateurs, qui chargeaient des prix super élevés, que c'était vraiment ridicule, que ça ne tenait pas la route. On a fait des comparaisons de prix à travers le temps, avec les autres provinces, avec les villes américaines, le Québec, Montréal particulièrement, avait des prix vraiment bas sur l'électricité avant la nationalisation. La seule raison que les prix avaient l'air des fois d'être plus élevés, j'ai vu le changement de nom, Frank, que les prix avaient l'air plus élevés, c'était que le Québec mettait des taxes vraiment élevées sur les producteurs. Puis quand tu regardais les prix pour les services industriels, c'était super bas. Donc, toute la mythologie sur les monopoles qui abusaient des consommateurs n'avait pas l'air de se concrétiser.
Cette mythologie-là, elle a-tu été créée après coup ou c'était live à l'époque?
C'était live à l'époque.
Journaux, fait qu'on disait qu'il y avait des monopoles, des choses comme ça, puis ouais. Personne n'identifiait le réel problème à ce moment-là.
Mais c'est parce que tout le monde comparait avec l'Ontario. Puis l'Ontario, okay. Comme deux décennies avant...
Il faisait des martines.
Oui, il faisait des martines.
On l'a salué.
D'ailleurs, elle et Erin O'Toole ont perdu leur leadership review par les mêmes proportions. je veux juste souligner, parce que les gens oublient que Martine a été...
Tu sais, je veux dire...
Ouais, qu'elle a failli détruire le Bloc québécois en deux mois de chefferie.
Je comprends que tu aimes voir les politiciens perdre, mais je veux dire, Erin, il est bien trop gentil pour que tu fasses cette comparaison-là.
Non, ils sont tous pareils. Je les épargne pas du tout. Aucun ne mérite ma clémence.
Un gros Kalinours.
On revient à ce qu'on disait. À l'époque, c'était dès le début, c'était le mythe que c'était un monopole, c'était ça. Puis la comparaison se faisait avec l'Ontario, mais rarement, est-ce qu'on en regardait, les gens ont rarement regardé qu'est-ce qui se faisait en Ontario. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Ontario, au début du 20e siècle, 40 ans avant que nous, on commence à nationaliser au Québec, l'Ontario, elle, a nationalisé et a chargé un prix en bas du prix du marché pour l'électricité.
OK.
Qu'est-ce que tu penses que ça fait dans ce cas-là?
Pour faire passer le monopole, dans le fond.
Ben, pour faire passer le monopole, mais aussi pour électrifier les campagnes, pour rendre le prix plus bas dans les autres villes du sud-est de l'Ontario. Parce que l'Ontario, le problème qu'ils avaient, c'était que toute la production était autour de Niagara. Puis après ça, plus tu t'éloignais de Niagara, plus les prix augmentaient. Alors qu'au Québec, la production est bien distribuée. Tu as des sites à la rivière Outaouais, sur la Gatineau, tu en as sur les rivières du centre du Québec, tu en as dans l'Estrie, tu en as autour de Québec. Tu as une distribution qui était... Tu n'avais pas le problème que tu avais juste un gros point de production. Puis après, plus tu étais loin de ce point de production-là, plus le prix augmentait. Il y avait ça. Mais quand ils ont nationalisé en Ontario, ils ont mis le prix vraiment bas, en dessous du marché, en bas même du coût marginal pour la ferme. Mais qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Les gens consommaient plus. Il y avait deux solutions pour la société d'État. C'était soit de rationner la consommation ou d'importer. Ouais. La seule place qu'ils pouvaient importer, c'était le Québec. Fait que la surdemande, le excess demand de l'Ontario s'est déplacé sur les marchés québécois, ce qui a créé une pression à la hausse sur les prix au Québec.
Puis dis-moi, on les a vendus cher, notre électricité.
Ben, nous autres, on n'était pas obligés de leur vendre à leur prix qu'eux avaient dit qu'ils nationalisaient. Nous, les producteurs québécois, ils disent, ben écoute, si tu m'offres n'importe quoi en dessous de ce que je peux avoir des consommateurs québécois, je ne vais pas te le vendre. C'est des firmes privées. Les firmes privées ont vendu au prix du marché. Mais l'Ontario a donc dû augmenter les impôts. Donc ça, c'était le coût du monopole pour eux. Ils ont dû augmenter leurs impôts pour acheter du Québec. Mais il y a eu un spillover sur le Québec dans le sens que...
Fait que pour une portion du temps, dans le temps, là, on a fourré des Ontariens.
Ils sont
fourrés parce qu'ils étaient consentants, là.
Consentant. Là, on était pas, il n'y avait pas de perdant là-dedans. Mais le problème.
Ils finançaient ça avec leurs impôts de leur côté. Là.
Oui, eux autres s'appauvrissaient comme il faut avec mais ça. Mais nous, ce qui s'est passé au Québec, c'est que les prix ont augmenté dans les places qui étaient connectées avec l'Ontario. Mm. Fait que ce que nous, on montre dans l'article en utilisant des méthodes économétriques assez modernes, c'est que les endroits qui avaient une connexion avec le réseau ontarien, donc les producteurs qui servaient les villes, disons, de l'ouest du Québec, comme Montréal, même si les prix restaient bas de manière internationale, ils avaient augmenté relativement à un vraiment très bas niveau plutôt à cause de la demande ontarienne qui avait explosé et qui avait eu le spillover d'augmenter les prix au Québec parce que tu as plus de demandes sur le marché québécois, la courbe de demande se déplace au Québec, qu'est-ce qui se passe avec les prix? Bien, ils vont augmenter. Fait que nous, le résultat de notre article, Germain puis moi, ce qu'on mettait à la fin, c'est que la nationalisation éventuelle au Québec était basée sur le mythe qu'on avait des prix plus hauts qu'en Ontario.
Ben oui, c'est ça.
C'était en partie en raison du fait que l'Ontario avait nationalisé. Fait qu'on a nationalisé parce que l'Ontario avait nationalisé. C'était comme la première ronde d'intervention de l'État a créé des problèmes inattendus, dont une des réponses que des gens se sont dit, c'est qu'on va utiliser plus d'État pour régler les problèmes que l'État a initialement causés. Et ça, c'est un article. Le premier article a été accepté dans l'Atlantic Economic Journal, qui est un petit journal en économie. Mais le deuxième, ça a été accepté dans un gros journal, qui est un field journal qu'on appelle Public Choice, qui est le journal pour les gens qui font de la théorie des choix publics. C'est un très gros journal en économie, puis on est super content qu'il ait été accepté. Malheureusement, Germain est mort entre quand j'ai envoyé la dernière ronde de révision à l'article que les arbitres puis l'éditeur, l'éditrice, en fait, avait. C'est une éditeur ou une éditrice, j'oublie tout le temps.
Éditrice. Non, ça okay. Doit être éditrice.
Mais... OK, je me demandais, là, j'ai toujours une hésitation à cause que je vis dans les deux mondes, là, dans le terme de langue. Mais
t'es juste un illettré, là. Ah,
merci, Yann. Okay. Venant d'un expert.
Non, moi, je suis un édenté, c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça.
Anyway, mais Germain est mort, malheureusement, avant qu'il voie le résultat final, que l'article vient tout récemment d'être accepté par le journal, qu'on appelle un conditional acceptance. Il faut qu'on fasse des petites modifications esthétiques mineures.
Y a-t-il quelque chose qui se passe de spécial, par curiosité, quand un des auteurs décède pendant le traitement?
Non, ça ne change rien au processus de publication, autre que il va y avoir une petite étoile à côté du nom de Germain qui va être écrit à titre posthume.
Okay.
Ça, c'est la partie qui me fait un peu de peine, mais honnêtement, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était 2016, 2017.
C'est long, pareil. Hein?
Ben non, mais le premier article. Puis quand on avait fait le premier article, on s'était dit éventuellement, il faudrait qu'on revienne sur l'affaire de l'Ontario. Parce que ouais. Ça fait. On est en train. On a peut-être quelque chose. On se disait. Après, en fait, le premier point qu'on a fait, que toutes les. C'était juste du myth-busting, le premier article. Le deuxième, on s'était dit qu'on avait fini le premier, il faudrait qu'on fasse le truc sur l'électricité. La nationalisation au Québec étant le résultat des conséquences inattendues de la nationalisation 20 ans plus tôt en Ontario. Puis, ben c'est plate que Germain pour pouvoir le résultat final a été accepté, mais on est vraiment content de cet article-là parce qu'il est vraiment, vraiment, c'est un myth-busting. Il est présenté comme une contribution à un autre domaine en économie, mais le case study est vraiment intéressant pour les historiens québécois, pour les gens qui sont intéressés à l'histoire du Québec. En gros...
Et qu'il n'y aura plus jamais aucun souverainiste qui va vouloir te parler, Vincent.
Ben non. Écoute, les souverainistes... En fait, mon plus grand plaisir avec les souverainistes, c'est qu'ils leur donnent... Il en reste une couple. Le Parti québécois fait au moins 10% dans le sondage. Je présume qu'au moins la moitié de ces gens-là sont souverainistes.
Ouais,
parce que là, tu sais, parce qu'il y a presque une connexion divine là, dans le processus de nationalisation de l'électricité. Tu sais, on remonte à René Lévesque qui lui-même descend presque
Saint-René.
Mais écoute, c'est vrai que pour les nationalistes, la nationalisation a eu un rôle important parce que c'était une société d'État qui était. Quand c'était privé, c'était généralement du savoir-faire qui était des anglophones, à toute fin pratique, on va le dire comme c'est. Et après ça, tu avais des gens francophones qui ont pu prendre contrôle de cet outil-là. Et au lieu que ce soit des firmes privées différentes, c'était un monopole public contrôlé par des francophones. Mais
on a-tu exproprié toute leur compagnie? Honnêtement, je n'ai jamais vraiment lu sur le processus à l'époque.
Ils ont été achetés au prix du marché.
On n'a pas crossé personne en faisant ça. Là.
Non, ils n'ont pas été dépossédés. La première nationalisation, par contre, en 1944, là, il y a eu l'air d'avoir quelque chose, parce qu'on oublie qu'il y a eu deux vagues. La première, c'est que la Montreal Heat, Light and Power a été nationalisée en premier. Et ensuite, les autres, comme la Southern, la Gatineau.
En 44, c'était Godbout, ça?
Oui, c'est Godbout qui a fait la première nationalisation. Et là, il y a eu un gros débat qu'ils n'ont pas été compensés, les firmes, que les actionnaires de MHLP n'ont pas été compensés à la valeur du marché. Mais Duplessis a corrigé ça quand il a été réélu. Il les a... Je pense qu'il y a eu une rectification. Il y a un article d'une historienne économique qui était à HEC avant, Ruth Dupré, qui avait expliqué comment ça s'est produit, comment il y a eu la juste compensation qui a été fournie éventuellement.
Mais je me trompe-tu, quand on arrive pour compenser une compagnie dans une nationalisation comme ça, c'est important de bien le faire parce que tu peux quand même détruire ta réputation d'un point de vue international. Tu sais, je veux dire, si tu arrives et tu saisis les entreprises puis tu lui donnes pas une scène, puis personne va vouloir faire de la business chez vous.
Ce qu'on appelle dans le jargon réquisitionner.
Ouais, effectivement. Mais écoute, la chose qui était... Puis là-dessus, je pense qu'il y a une défense à faire de Jacques Parizeau. Il y a une partie de l'histoire économique du Québec qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est comment la dette publique était financée avant les années 60. Avant les années 60, le Québec empruntait sur les marchés financiers à Montréal et Toronto. Et il y avait un syndic financier de gens qui avaient des relations très proches, tant avec le gouvernement fédéral qu'avec le gouvernement provincial. Puis c'était toute la pratique du rent-seeking politique qui se produisait. Mais ça faisait aussi en sorte que l'espèce de jeu symbiotique qu'il y avait, c'était que les deux se tenaient un peu en garde l'un contre l'autre. Jacques Parizeau est arrivé, puis le syndic financier de Montréal, quand c'était le temps d'emprunter pour compenser les actionnaires des autres compagnies d'électricité, le syndic a dit « Non, on ne veut pas vous prêter. » Parizeau, en fait, ils ont dit qu'ils voulaient leur prêter, mais à des taux qui étaient complètement ridicules. Parizeau
a été... Là, tu parles de Parizeau, le fonctionnaire, et non pas le politicien. Ouais.
Parizeau, quand il était fonctionnaire, effectivement, Parizeau a expliqué à Le Sage et compagnie que c'était tout à fait possible d'aller emprunter sur d'autres marchés. Donc, il est allé à New York. C'est ça, celui qui a éventuellement dit l'argent et les votes ethniques.
Excuse, faut que je mette un peu de couleur. Là.
Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est parce qu'on est sur Restream, puis on peut mettre des noms en dessous de notre face sur la caméra quand on se parle. Puis souvent, pendant que l'autre parle, on change les noms. Fait que Frank, il vient de changer pendant que je parle de Parizeau, il a mis l'argent et des votes ethniques. fait que, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on est interrompu dans notre propos, c'est ça qui vient de se passer. Mais Parizeau, ce qu'il a dit, c'est qu'on va aller emprunter à New York. Et il a emprunté 300 millions. Et il a donné le chèque en arrivant aux compagnies. En fait, il a encaissé. Il a donné des liquidités, des transferts, les securities à des firmes privées. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Là. Il n'y a pas eu de dépossession. C'est une nationalisation. C'est une transaction sur un marché ouvert.
Bon, oui, exact. Présentement, on vit de quoi avec les compagnies gazières? T'sais, on sait c'est quoi l'histoire. Là? Il y avait des compagnies gazières qui avaient des claims au Québec. En 2008, on découvre du gaz avec Junex, Gastem, Petrolia, toutes sortes de compagnies comme ça. On découvre du gaz au Québec. On est assis sur des milliards de dollars de gaz, de schiste, qui est quand même assez dur à extraire. Finalement, bon, on connaît l'histoire un peu. Là. On a mis fin à ça. Il y a eu des moratoires. Puis là,
ça implique encore Martine, en plus, soit dit.
Oui!
Moi, c'est mon bout préféré de sa carrière politique, je vais être franc.
Martine, tu nous manques!
Hey, moi, j'avais deux mains là-dedans. Je veux dire, mes premières expériences d'investisseur autonome, bien avant que je sois conseiller, là, c'était dans ces compagnies-là. J'avais investi là-dedans. J'avais fait beaucoup d'argent pour ensuite vraiment en perdre une tonne grâce au gouvernement. Mais non, c'est des expériences d'investisseur spéculateur. Fait que, tu sais, des fois, les gens me voient un peu avec du dédain sur la spéculation quand je parle de finances. C'est que j'ai quelques bonnes expériences catastrophiques à raconter aussi. Là. Mais c'est ça. Finalement, là, on le sait, il est moratoire. Puis là, le gouvernement semble carrément s'en aller dans une direction où est-ce qu'on va dire « OK, ad vitam aeternam, c'est terminé, le gaz reste dans le sol. » Bien là, on bougonne parce qu'il y aurait des compensations à donner à ces compagnies-là ou à certaines de ces compagnies-là. Mais je veux dire, si vous ne donnez pas de compensation, d'un point de vue réputation internationale...
Oui, t'as l'air d'un voyou.
Faire de la bête. Ouais. Ben là, écoute, tu peux pas compenser ces compagnies-là. Là. Je veux dire, ils ont investi, cette-là. Ils ont fait les recherches, là.
Écoute, il y a deux arguments contre la nationalisation. Okay? Le premier, c'est que l'État pourrait être un moins bon manager d'une ressource, tout simplement parce qu'il n'y a pas le bénéfice pour les gens qui possèdent la firme n'est pas aligné sur la valeur de la production, le profit est plus politique, donc tu as une dynamique différente à l'intérieur de la firme.
Ce qui est déjà un argument suffisant, à mon avis. On n'aurait même pas besoin du deuxième, mais vas-y.
je ne m'ostinerai pas avec toi là-dessus, on est 100% d'accord. Mais l'autre argument, c'est aussi c'est sur quel terme tu nationalises. Parce que tout ce que tu fais, c'est que si ce que tu fais, c'est que tu transfères une propriété d'une personne à l'autre, parce que c'est ça que tu fais quand tu nationalises. Tu dis que personne Yann a propriété X. Si Yann dit qu'il veut que le prix qui était prêt à la vendre sur un marché ouvert, c'est 10 000 $ et que l'État lui offre 10 000 $ Yann n'a pas été dépossédé. La nationalisation ne crée pas une perte automatiquement. Parce que si, mettons, que notre argument qu'on a dit avant était faux, que l'État est même mieux capable de gérer, mais dans ce cas-là, le gain d'efficacité n'est pas éliminé par le vol qui est fait de la ressource que Yann gérait moins bien.
Mais à condition que tu aies un droit de refus. T'sais, si il y a un processus de nationalisation... Puis que, OK, parfait, l'offre est raisonnable, mais dans un marché privé, l'offre est raisonnable. Je peux décider de la refuser pareil.
Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon/iSénéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à Ciel FM, à CFX, que ce soit La Pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulés à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée.
Ben, dans un processus de nationalisation, OK, ouais, tu m'offres un bon prix pour mon commerce, mais ça ne me tente pas de te le vendre.
Ben, en fait, ce qu'on va plus regarder, je pense, dans ces situations-là, c'est quel est le respect des droits de propriété de l'État en question. Ouais. Parce que, tu sais, regarde, des situations où est-ce que tu as des expropriations à faire. Mon père est exproprié à cause d'une construction de route. Tu sais, tout le monde qui avait des maisons sur la route qui s'en venait savait qu'elle allait être expropriée. Puis tout le monde jouait ses cartes à sa façon. Il y en a qui ont accepté les premières offres qu'ils ont eues, ils ont éliminé le stress, ils sont partis. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui se sont dit « Ah, je vais attendre un peu plus, je vais avoir une meilleure offre. » Puis il y en a d'autres qui ont boqué solide, là. Tu sais, genre, no, il n'y en est pas question. Il y en a même qui ont quasiment forcé le gouvernement à redessiner un peu pour contourner leurs affaires. Mais tu es dans une situation que tu dis, crime, en bout de ligne, le gouvernement fait ses expropriations en s'assurant que tout le monde accepte. Puis la raison pourquoi ils veulent faire ça, c'est que tu ne veux pas passer pour un pays de cul. Tu ne veux pas que les gens aient peur que leurs droits de propriété ne valent rien au Québec. Puis ça, c'est quelque chose de vachement important. Hein.
C'est ça qui est vraiment... souvent, je me souviens quand j'ai parlé de nationalisation ou privatisation avec des journalistes, c'est toujours difficile pour eux de comprendre qu'il y a deux sous-questions associées à ça. Quand tu nationalises, si c'est juste un achat de gré à gré, il n'y a pas d'expropriation, ce n'est pas un mauvais signal en soi. Et il y a la possibilité que l'État s'en sert d'une manière qui est peut-être... Parce que peut-être, disons que j'ai tort, que mes arguments de la théorie des choix publics sont tous tort malgré le nombre incroyable d'articles.
Les compétiteurs, c'est pas important.
Mettons quelque chose comme ça, là. Mettons. Puis, des fois, tu pourrais dire que, par exemple... Non, mais attends une minute. Tu as un cas théorique, c'est ce qu'on appelle un monopole naturel.
Oui, je comprends.
Quand tu as un monopole naturel, la firme qui a un monopole naturel va charger un prix supérieur à son coût marginal, va charger au prix qui est celui qui est équivalent quand son revenu marginal et son coût marginal sont égaux ensemble. Mais le prix va être bien plus élevé. Une société d'État, parce que l'État n'est pas obligé de faire un profit dans ce cas-ci, pourrait baisser les prix et faire quelque chose qui est plus proche de l'optimal. Est-ce qu'il est capable de le faire, c'est une autre question, mais il y a un cas théorique qui est assez bien, qui a quand même un corpus de respectabilité en économie, que c'est une possibilité. Mais ça, c'est différent de la question de comment tu fais cette nationalisation-là. Tu ne peux pas nationaliser en expropriant une personne de sa propriété. Et en fait, dans un cas comme ça, si tu fais une expropriation, il y a la possibilité que ta nationalisation est contre-productive parce que tous les autres investisseurs regardent la situation et se disent « Mais qu'est-ce qui arrive? » Moi, je veux dire, ce qui se passe, c'est que tous les investissements futurs qui ont une longue durée, donc ça prend longtemps, la maturité d'un projet, c'est pas demain matin, c'est 10, 15, 20 ans dans l'avenir. Mais s'il y a un 5, 6, 7 % de chance de plus que le gouvernement décide de fermer les livres et de m'enlever mon actif avant qu'il arrive à maturité.
Tu t'en vas
avec. Je veux juste pas faire l'investissement pour commencer.
Exact.
Dans ce cas-là, tu appauvris ta société au net.
Exactement. Dans le mauvais comportement, dans un comportement voyou de la part du gouvernement, tu peux briser le PIB dans des secteurs économiques tout autres que l'électricité.
Yep. Fait que c'est pour ça que la question de nationalisation, c'est différent. Des résultats de nationalisation peuvent être différents du processus de la nationalisation. Soit une nationalisation peut être bien faite, comme elle peut être mal faite. Puis une nationalisation bien faite pourrait être une nationalisation qui est quand même nocive économiquement. Une nationalisation mal faite est probablement plus de chances d'être économiquement nocive, mais elle n'est pas automatiquement nocive.
Puis même, j'aurais tendance à dire que dans un contexte de nationalisation complète d'un marché, oui, il y a des gens qui vont vendre vite la première offre qu'ils vont avoir, mais les 3-4 dernières compagnies qui restent à nationaliser puis qui, eux, vont avoir des chèques peut-être plus élevés, la logique est quand même là quand tu y penses, parce que tu dis, oui, il y avait un certain prix du marché avec des compétiteurs, mais la journée que tu élimines les compétiteurs, le prix, le rent sinking que tu peux aller chercher avec un prix monopolistique est beaucoup plus élevé. Fait que tu es vraiment dans une situation que celui qui va payer pour te nationaliser, il est probablement prêt à payer plus que le prix du marché. Donc, tu n'es pas un crosseur de demander plus que le prix du marché.
Non, mais non seulement ça, mais le fait même que les gens décident de faire du hold-out, ça te montre qu'ils sont conscients qu'ils vivent dans un régime de propriété privée puis qu'ils ne se feront pas déposséder avec aucune compensation. Bon, le gouvernement a quand même certains droits de dépossession, ce qu'on appelle aux États-Unis « eminent domain », je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais que l'État a le droit de dire qu'il y a un bénéfice public tellement large qu'on peut te surpasser, mais il faut qu'on t'offre le « fair market value ». Donc, c'est même écrit dans la loi que tu ne peux pas déposséder disproportionnellement pour… donc, il doit avoir… Il y a même un mécanisme qui est encadré, mais souvent, ce qui va se passer, c'est que les promoteurs privés ou l'État est conscient que juste ce qu'ils ont à dépenser pour aller en cours, pour faire l'éviction, pour le challenge, toutes les chicanes qu'il pourrait y avoir, ouais. C'est peut-être mieux d'offrir un prix supérieur au marché de la valeur de la propriété pour que la personne renonce.
Ouais, parce qu'il y a quand même, une perte de jouissance, là, on va se le dire. Là, dans un, ouais. T'sais, quelqu'un, t'es une famille, t'es installé dans ta maison. Des fois, ça peut être…
une valeur émotive.
Ça peut être là depuis quand même, des fois, plusieurs générations dans certains cas. Ça vaut pas juste, en tout cas, c'est peut-être mon côté sentimental, mais pour certaines personnes, c'est certain que ça vaut pas juste le prix marchand de la maison de se faire exproprier. C'est arrivé, moi, à mon arrière-grand-père qui a été exproprié pour la construction. T'sais, c'était la mode des fameux centres d'achat qu'on recouvrait des rues. C'est arrivé ça, au lac Saint-Jean. Il était dépossédé de sa maison pour ça. Puis je vais être franc, il s'en est jamais remis. Il était vieux,
Si ce que tu expliques là n'existait pas, Gaston Mandeville n'aurait jamais écrit « Le vieux dans le bas du fleuve ».
Non, en effet.
Effectivement.
Écoute, c'est drôle tu dis ça. Je cherche... je veux savoir, juste parce qu'on est en train de parler du prix des maisons, là, je cherche sur Google Scholar si, je ne sais pas comment j'appellerais ça en anglais, mais le prix des maisons familiales, parce qu'en anglais, si je dis family home, c'est juste une maison.
Nous autres, c'est maison unifamiliale au Québec.
Non, mais moi, ce que je veux savoir, c'est... Ouais, maison unifamiliale, mais moi, ce que je veux savoir, c'est la maison d'une famille qui s'est... Mon père, c'était la maison de mon père.
C'est la maison... Une maison générationnelle.
Generational.
Ça doit être ça.
C'est ça. Je veux savoir, je me demande si tu, je voudrais savoir combien il faut, en moyenne, faut que
après,
tu
après offres. Ça, il dit que c'est moi le cave des trois. Il est drôle en latin.
C'est pas parce que je connais pas un mot que je suis cave. C'est pas parce que tu le connais que toi que t'es pas cave. L'équivalence va pas dans la même direction, bonhomme.
Ça, c'était généreux, ça.
Alors, mais entre nous autres, on s'aime tellement qu'on n'a pas besoin d'être généreux. Écoute, j'ai trouvé quelque chose. En moyenne, pour convaincre des gens d'abandonner une maison familiale qu'ils ont héritée...
25 % de plus.
14.
Ah, c'est pas si
14.
J'aurais pensé plus gros que ça. Mais...
Ouais, ben en moyenne, c'est ça qu'ils disent.
Mais j'avais compris la moyenne. Ben, il y en a, on le sait, ça se fait au double du prix. Là.
C'est peut-être moyenne, mais je vois rien qui me dit c'est quoi la distribution. Hein. Peut-être pas moyenne avec une moyenne centrée dans une courbe normale. Ça pourrait être que tu as une couple de personnes qu'il faut que tu leur en offres tellement.
Oui.
Puis il y en a d'autres que pour eux, ça ne vaut plus rien parce que s'ils ont décidé de la vendre cette année-là, ben c'est parce qu'ils s'en foutent de la valeur familiale. Mais il y en a quelques-uns qui sont en. Qu'eux, il faut vraiment que tu leur en offres beaucoup pour qu'ils s'en, qu'ils s'en départissent.
Les transactions ne se font pas toutes à 14 % là, ça, c'est définitif.
Non, c'est clair. Mais je lirai pas l'article maintenant, là, mais je voulais juste voir. Mm. Ça a l'air de coûter plus cher pour convaincre une personne.
Ouais, ben c'était juste un feeling de même, mais je pense que.
Non, mais économiquement, ça fait du sens.
C'est ça qui a amené une vague de nationalisation un peu partout dans le temps au niveau économique, quand on voit des affaires comme ce qui sont passées en Ontario, là, où est-ce qu'on nationalise, puis rapidement, on baisse les prix en bas du prix du marché pour des raisons électoralistes ou peu importe. Tu sais, je veux dire, si tu te mets dans la position d'un consommateur, la journée que tu nationalises, le lendemain, ton électricité te coûte moins cher, tu peux en consommer plus. Oui, on te charge plus cher en impôts, mais tu ne fais pas nécessairement de lien dans ta tête. À ce moment-là, c'est juste des chercheurs pas de cheveux qui découvrent ça 30 ans plus tard. 40, 50, 60.
Ben, ça, je pense que Yann, c'est l'argument. C'était peut-être les arguments économiques, mais moi, je pense que dans le cas du Québec... les justifications qui étaient données en gros à ça, c'était que le seul moyen que les francophones accèdent à une certaine importance dans la société, c'était les leviers de l'État. Ça me paraît... Ouais. Puis il y a encore cette croyance-là aujourd'hui que si l'État-providence n'est pas là, on est des gens qui c'est avec leur boîte à lunch à l'usine, puis c'est les Anglais qui sont... Ouais, exact.
Écoute, il y a un article économique qu'il faut que... que je mentionne là, parce qu'on en parle. Dans les années 60, il y a un Québécois. En fait, je ne suis pas sûr si c'est un Québécois, mais ce n'est pas important. Il était à l'Université de Montréal dans le temps, Albert Breton, qui est un des plus grands économistes canadiens du 20e siècle. Il a écrit un article dans la top revue en économie qui s'appelait « The Economics of Nationalism ». Puis son point... est super simple.
Pourquoi tu dis la top puis s'appelait? Elle n'existe plus?
Parce que je ne suis pas sûr si je l'appellerais un top journal aujourd'hui.
Okay. Dans le sens que. Elle a déjà été au top.
À l'époque, c'était le numéro 1. Maintenant, il fait partie du top 5. Puis le numéro 1, en fait, maintenant, c'est celui qu'on appelle le AER, American Economic Review. Mais en 1960, si tu publiais dans Journal of Political Economy, c'est que tu étais le top dog. Et Breton publie un article dans Journal of Political Economy qui s'appelle The Economics of Nationalism. Et sa théorie du nationalisme, c'est que, en gros, tu as un groupe qui cherche à redistribuer des rentes vers lui. Le nationalisme, c'est un discours de rent-seeking à toute fin pratique. Et il produit certaines preuves pour ça, ce que les années 60 pouvaient permettre en termes d'évidence empirique. Mais depuis, il y a des articles qui ont confirmé son point que souvent, les mouvements nationalistes sont cooptés par des gens qui, pas pour des raisons culturelles ou pas pour des raisons nécessairement idéologiques, mais pour des raisons purement pécuniaires, cooptent un mouvement nationaliste pour justement avoir des rentes. Et Hydro-Québec fait parfaitement là-dedans. Tu as des francophones qui ne sont pas capables de percer dans un domaine, dans des firmes privées compétitives, participent avec l'État à la nationalisation d'électricité et remplacent l'autre groupe et obtiennent les rentes, parce que c'est un monopole a des rentes. Les gens qui participent au monopole se partagent la rente du monopole dans ce cas-ci. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, tu regardes pour les francophones, tu as énormément de va-et-vient entre Hydro-Québec, la fonction publique, le domaine politique, d'autres secteurs d'entreprises privées. Donc, tu collectais une rente par ce mécanisme-là.
Tout ce que tu viens de dire là, honnêtement, on n'a vraiment pas beaucoup de difficultés à se l'imaginer. Là. Je vois les unes de journaux à ces époques-là dans ma tête. Là. Il me semble que c'est très, très...
Ben même juste le titre « Maître chez nous
ben ». C'est à ça que je pensais, « Maître chez nous ».
Ça le dit beaucoup. Maintenant, je comprends la perspective historique du Québec, que pendant si longtemps, quand tu sens... Parce que on en a parlé quand on parlait du rattrapage économique des francophones. Quand pendant si longtemps, tu vois un gap économique clair avec l'autre groupe. C'est facile de s'imaginer...
Et que tu es la majorité.
Et que tu es la majorité, oui, c'est super important que tu es discriminé. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas une discrimination formelle d'État. En fait, ce qui nous a nuit au Québec, c'était vraiment le fait qu'on a donné à l'Église un monopole sur l'éducation. Ouais. Ça a été vraiment la chose qui était le plus coûteux. Mais il n'y avait rien qui... Il n'y avait aucune barre, il n'y avait aucune discrimination. Écoute, on n'avait pas de Jim Crow laws comme aux États-Unis. On n'était pas légalement mis dans une situation. Il n'y avait pas de différence de droit de propriété pour les francophones, les anglophones. Il n'y avait pas une discrimination formelle qui était faite.
Ah, mais Vincent, Lord Durham, là, il a dit qu'il fallait nous assimiler.
Écoute.
Parce que j'ai joué le rôle de
Yann pendant deux secondes. Non, mais j'ai eu cette conversation-là à un moment avec Mathieu Boccoté, puis j'ai dit, mais tu réalises qu'il a juste dit ça.
Oui,
moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il ne s'est rien passé. Je veux dire, au final, ce qui est vraiment fascinant de l'Empire britannique, c'est que malgré toute l'hostilité que les Britanniques ont eue à l'égard des catholiques, des Canadiens français, parce qu'il ne faut pas se cacher, on n'était pas du tout aimés. Mais l'ordre constitutionnel britannique
les empêchait de nous piler sur
la tête. Nos droits étaient protégés, mais non seulement protégés, mais excessivement bien protégés. La réalité, c'est que notre membership, for lack of a better word, à l'Empire britannique a été étrangement tant la source de la menace qu'on a eue culturelle.
L'appartenance, mon anglo préféré. L'appartenance.
Oui, mais en même temps que ça a été la source de la menace, ça a été aussi la nature de notre protection. C'est vraiment la grande difficulté. Ben, c'est comme...
La culture démocratique anglaise, qui est la culture de base au Canada et au Québec, parce que oui, on a le code civil, là, mais je veux dire, nos lois, fondamentalement, c'est les lois anglaises. Moi, sérieusement, tu me demandes la supériorité de quel régime je préfère. Je préfère beaucoup le système britannique que celui français. Là.
Mais tu sais.
Ça, je ne sais pas si je me prononcerais super fortement là-dessus parce que je n'ai pas vraiment une croyance sur ça. Là. Je ne pense pas vraiment. Il faut souligner que.
Il n'y a rien de français dans notre façon d'agir d'un point de vue démocratique, ça, on comprend.
Oui, bien, en fait, ça je suis d'accord. Ça, cette partie-là de ta affirmation, je suis d'accord. Mais la réalité, c'est que, par contre, ce que je suis prêt à dire, c'est que les Québécois, c'est vraiment les gens les plus britanniques que tu n'as pas en Amérique du Nord. Nos traditions sont férocement britanniques.
Ben,
les
juste
mécanismes à l'intérieur de nos partis sont immensément britanniques. On a du tout... En fait, tu regardes notre histoire institutionnelle, c'est une histoire britannique qu'on a adoptée à 100%. Il y a des livres, par exemple, par l'historien économique Gilles Paquet, son collègue Jean-Pierre Wallot, qui montrent la vitesse fulgurante à laquelle les Canadiens français, dès qu'on a eu l'acte de voter, parce qu'on a eu le droit de voter en 1791, parce que même si on était des catholiques, de participer à des fonctions de l'État à un certain degré, c'était très rapide qu'on s'est approprié le cadre institutionnel britannique, qu'on s'est dit des citoyens, qu'on était... Les héritiers des libertés anglaises, mais qu'on avait le droit d'être français avec des libertés anglaises. C'est quand même assez impressionnant dans l'histoire du Québec, cette espèce d'appartenance-là. C'est pour ça que quand la gauche bien-pensante qui m'énerve le plus, c'est celle qui essaie de nous faire ressembler le plus à disant « ça, c'est de la pensée anglo-saxonne comme si c'était étranger au Québec ». Non, les Québécois sont littéralement le groupe que tu les regardes, qui sont les plus anglo-saxons de tout l'univers.
T'as juste besoin d'aller en France 3 jours
pour voir la différence.
T'es pas français.
Ben à la base, les États-Unis ont une structure politique républicaine, un peu comme celle des Français. Je veux dire,
mais aussi,
c'est le pays à côté de nous, là, puis eux autres ressemblent plus aux Français que nous autres.
Demande aux Québécois qui veulent étudier à l'étranger leur pays de préférence.
US?
Grande-Bretagne.
Oui, Grande-Bretagne, c'est très populaire pour ça.
La proportion de Québécois que tu vas trouver dans des Québécois qui vont faire leurs études à l'étranger, ils ont même ceux qui vont aux États-Unis vont dire qu'ils ont postulé dans des universités britanniques.
Ah ouais, t'es sérieux?
À LSI, t'avais, écoute, l'année que j'étais là pour ma maîtrise, on était une trentaine de Québécois. Puis LSI, c'est 8-9 000 étudiants, là, je ne me souviens plus du chiffre. Mais le Québec, c'est 8 millions de personnes. Sur 8 milliards de personnes, dans une université de 8 000 personnes, tu as 30 Québécois francophones.
OK, le jeu des proportions.
Le jeu des proportions ne devrait pas aller dans ce sens-là. Là. Tu ne devrais même pas en avoir un.
Mais tu sais, c'est moi, pour en revenir deux secondes à l'histoire de Durham, là, ça me fait toujours un peu capoter de savoir que des gens sont surpris que quelqu'un né en 1790 soit raciste.
Ben écoute,
tu sais, je suis désolé, là, mais qu'est-ce que vous venez de découvrir là-dedans? Le gars, il fait partie de la monarchie, mais pas de la monarchie, mais de l'aristocratie anglaise de l'époque. Il est né en 1792. Et vous êtes surpris qu'ils n'aiment pas les Français. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous allez trouver quelqu'un dans l'appareil aristocratique français qui aime les Anglais de l'époque? Écoute, c'est, je veux dire, bon, c'est, pour moi, c'est une évidence.
Mon premier article scientifique publié, c'est sur la tolérance des Canadiens français juste immédiatement après la conquête. Puis le point que je fais, c'est que les premiers Anglais qui viennent dans la colonie n'aiment pas les Canadiens français, ne sont pas du tout fans de ces papistes, de ces gens qui écoutent Rome, qui n'ont pas
Le bug est plus religieux que de linguistique, de ce que je comprends.
Oui, non, c'est les deux. C'est des Français, l'ennemi mortel, et ce sont des catholiques, l'autre ennemi mortel.
Ils font bien manger, ben.
Oui, effectivement. Mais
merci aux morts.
On remercie l'exact. Merde! Tu l'as volé celle-là! J'allais faire exactement cette joke-là. Fuck you, Frank! Fuck you! Fuck you, sir! Fuck you so fucking much! Hey, y'a rien qui me fait plus chier que d'être la. Juste le. Tu sais, quand t'es juste deux secondes après l'autre, la joke que tu voulais faire, t'es comme « Asti que je t'haïs ». Y'a rien qui me fait plus chier que ça de faire voler ma joke quand je suis prêt. Quand il y en a une qui est meilleure que celle que j'avais, je me fâche pas. Mais quand c'est la même, puis c'est juste le deuxième, Asti que ça me fait fâcher. Oh,
mais justement, sur ce manque de générosité, on rentre dans la partie Patreon.
Ah non, mais attends, je veux vraiment finir cette histoire-là pour les gens de la partie non-Patreon. Puis tu prends, on fera Joe Rogan après. Parfait. L'article sur la tolération, ce qu'on montre, c'est que les premiers Anglais qui ont gouverné Québec, Carleton, Murray, Amherst, ne sont pas du tout des fans des Canadiens français. Ils ne les aiment pas. Haldimand aussi, par exemple. Mais ils décident de tolérer, de les accommoder. Pour quelles raisons? Pour des raisons...
Respect de la Constitution.
Zéro. C'est le cadre institutionnel britannique, c'est qu'à l'époque, tu avais le problème de la dette publique en Grande-Bretagne. Qui faisait en sorte que la dette anglaise était tellement élevée qu'il fallait que l'incitation... Non, il fallait juste pas rendre la colonie trop coûteuse à gérer, surtout que l'autre expérience précédente avec la conquête d'un groupe canadien-français, c'était les Acadiens. Ils ont déporté les Acadiens. Ça leur a coûté excessivement cher. Les gens réalisent pas. Pour un truc aussi trivial de la perspective de l'Empire, right? Pour les Acadiens, c'était atroce, là, mais pour la perspective de Londres, déporter une dizaine de milliers de personnes, c'était trivial en termes de bénéfices stratégiques, mais ça a été disproportionnellement coûteux pour eux. Et Londres, dans les motivations qu'ils donnent pour justement, tu ne vas pas aliéner les Canadiens français, c'est qu'on n'a pas les moyens pour une colonie aussi insignifiante de se faire chier. Tu vas les accommoder, puis tu vas trouver une manière de les accommoder.
Autrement dit, on ne veut pas Acadie 2.0. Là.
C'était à toute fin pratique, c'est ça que j'explique dans l'article, c'est qu'on ne veut pas une Acadie 2.0, que la tolération, là, ce n'est pas une acceptation qu'il y avait. C'était que le cadre, les incitations dans les règles du jeu des Anglais, c'était produire une tolérance qui était plus instrumentale que de principe, mais qu'au final, le résultat que ça a eu, c'est qu'après, la tolérance qu'il y a eu des Canadiens français a inspiré le Irish Relief Act, les actes de tolération à l'égard des catholiques irlandais, et que ça a établi à toute fin pratique, avec l'acte de Québec, des précédents qui ont eu force de loi à travers le temps qui a créé un cadre dans lequel les catholiques, tant dans les colonies britanniques que dans les îles britanniques, ont obtenu un statut légal qui était supérieur.
Autrement dit, la couronne, à ce moment-là, elle a compris une chose, c'est que si tu fais preuve de beaucoup de tolérance envers le peuple conquis avec le gouverneur, tu risques d'acheter une paix sociale relativement facilement, que ça ne te coûte pas trop cher, puis d'aller peut-être éventuellement tirer des bénéfices, mais sans scraper toute la patente. Puis ça, ça a été recopié. Puis un des premiers cas de figure, c'est le Québec.
Exactement. Puis en fait, l'article que je te parle est super cité dans la littérature sur l'économie de...
d'enseigner ça dans nos écoles? On n'est même pas proche.
Mais écoute, par contre, l'article que je te parle, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Toleration and Persecution » qui est écrit par un de mes collègues à Mason. Mais avant qu'on soit collègues, les deux auteurs du livre disent une des grandes des bonnes explications qu'il y a de comment des gouvernements font de la tolérance, c'est pas parce qu'ils croient au principe, c'est souvent que ça commence d'origine beaucoup plus crasse, qui ne sont pas du tout nobles, mais que par pratique, ça fait en sorte que tu vois les deux groupes s'acclimatent l'un à l'autre, et par la suite, ça devient force de loi, ou que ça devient littéralement un précédent constitutionnel, ou même qu'il y a un avantage à travers le temps pour les dirigeants, tant pour les colonistes, de devenir symbiotiques, de ne pas s'abuser l'un l'autre.
Mais tu sais, c'est un succès. Moi, de ce que je comprends, la tolérance qui a été institutionnalisée à ce moment-là, même si ce n'était pas dans les paroles, mais dans les actions, c'était une tolérance, c'est un succès. Puis ça ne nous est jamais présenté comme ça.
Non, en effet. Généralement, quand on parle de la conquête, c'est toujours présenté comme une sorte de catastrophe.
Il y a un récit.
Il y a un récit, mais l'affaire, c'est que je ne suis pas convaincu que c'est une catastrophe. Je ne suis pas convaincu que c'est bénéfique. Je ne suis pas en train de dire, ça, c'est la chose que les souverainistes, mes collègues souverainistes ne comprendront pas, c'est que je ne suis pas convaincu qu'on serait plus ou moins riche si on était resté avec les Français. Mais ce que je sais, c'est que c'est clair que les Anglais ne nous ont pas rendus plus pauvres. Il n'y a aucun signe définitif en ce sens-là, parce que sur plusieurs marges, on a eu des bénéfices d'être membre de l'Empire, mais il y a trop de choses à décontextualiser, à démêler pour arriver à une bonne évaluation de la chose. Même moi, je ne suis pas encore certain, puis je passe mon temps à penser à cette question-là, je ne suis pas encore certain de la réponse, mais c'est clair que à cause des choses que j'ai réussi à découvrir, qu'au moins j'ai pu réussir à réduire le range de possibilités. Puis dans le range de possibilités, c'est soit c'est un petit négatif ou un petit positif. Je ne sais pas lequel des deux. Mais il n'y a rien que... La manière dont on l'enseigne dans les classes comme un événement catastrophique, non, pas vraiment. Événement significatif, mais pas catastrophique.
En fait, on s'entend-tu que si on avait voulu nous assimiler pour de vrai, là, avec la force. Parce que, je veux dire, il était armé, mais on ne l'était pas, là.
S'ils avaient eu l'occasion, ils l'auraient fait, c'est ça, mon
point. Mais si vraiment, là, ils disent, OK, les Canadiens français, on les assimile pour de vrai, là. T'es prêt, paf, une balle dans la tête, let's go, on avance, on les assimile, les tout croche. Il aurait été capable de le faire, il avait le firepower de le faire. Ils nous assimilent demain matin. Là, on pourrait dire assez facilement qu'ils nous ont appauvris en le faisant, parce que, je veux dire, une guerre, tout le monde recule avec une guerre. Ça aurait fait assez fort. Là. S'ils avaient essayé de nous assimiler, je ne suis pas sûr que les Canadiens français se seraient laissés faire. Là. Ça aurait brassé pour de vrai. Il aurait peut-être même provoqué l'indépendance comme aux États-Unis. Ça aurait pu arriver aussi.
Ben, premièrement, s'il y avait eu des abus, une des motivations qu'il y avait derrière l'acte de Québec de 1774...
C'était pas de vivre ça.
Non, c'est parce que les Américains nous avaient... Il y avait la peur que les Américains nous inviteraient formellement à quitter. Et on oublie que pendant les années de ce qu'on appelle les Act of Confederation aux États-Unis, il y avait un siège libre au Congrès qui était écrit « Québec ».
Ouais?
Que je me souviens, mais en fait, il faudrait que je regarde, mais je me souviens que quelqu'un m'avait conté cet effet-là. Mais ce que je me souviens avec certitude, parce que je ne me souviens pas si le siège était symboliquement ouvert pour dire qu'on vous accepte, mais il y a eu une invitation formelle pour la colonie du Québec, de se joindre aux 13 colonies, soit la 14e colonie. Et donc, c'était une possibilité. Et puis, Carlton, qui est le gouverneur, en est absolument conscient. Et les motivations, quand il pousse, il y a un excellent livre de Philip Lawson qui s'appelle « The Imperial Challenge » qui explique une partie de ce que je dis. Comment est-ce que lui pousse très, très fort, même s'il n'a pas l'air d'aimer les Canadiens français. Il les respecte, mais il ne les aime pas nécessairement. Il a pas... Il déteste leur religion, mais c'est un peuple de gens travaillants. Mais surtout, ils peuvent devenir des loyaux sujets de Sa Majesté. Il faut qu'on leur montre seulement un signe d'ouverture, surtout pour éviter qu'ils s'allient avec les éléments séditieux au sud. Donc...
Ben, même Papineau, quand il est revenu de son exil aux États-Unis, il avait maintenant comme idéal Jefferson, puis il était en partie pour un genre d'annexe avec les États-Unis.
Ben, il a défendu à la fin de sa carrière, mais il n'était plus politiquement significatif, mais il avait effectivement défendu l'annexation. Mais non, les gens, vraiment, je pense qu'il y aurait... Moi, je voudrais, il faut que je finisse des articles avant, parce que chacun des articles devient un chapitre de ça, mais pour ceux qui veulent savoir, il y a un livre qui est en train de s'écrire, petit morceau par petit morceau, sur l'histoire économique du Québec, mais depuis le début. Qui va être un livre universitaire, là, mais qui
comment
après...
ça se vendait, une peau de castor, Vincent?
C'est pas ça le point. C'est pas la partie intéressante. C'est un
je sais
détail,
pas que c'est pas ça le point.
Mais non, mais je veux vraiment que les gens comprennent que, pour vrai, là, je vais rester sérieux parce que vous autres, vous ne voulez pas l'être. Mais il y a vraiment une histoire du Québec à raconter de manière précise dans laquelle les Québécois ont toujours été un peuple quand même assez riche de manière mondiale et que c'est uniquement à l'intérieur de l'Amérique du Nord qu'on est pauvre, mais l'Amérique du Nord a toujours été exceptionnellement riche et que notre mélange, notre histoire institutionnelle est tellement riche et complexe que tu peux voir beaucoup de choses d'intérêt pour d'autres domaines en économie ou en histoire.
C'est-tu l'absence de guerre qui fait qu'on est aussi riche?
Non, moi je pense vraiment que c'est le mélange du cadre britannique et français ensemble parce qu'on a gardé des bonnes caractéristiques du régime français là, à plusieurs égards, mais on a aussi conservé, on a aussi eu accès aux grandes vertus du régime anglais qui est une incroyable tradition de protection de la propriété privée.
Puis l'influence américaine aussi, parce qu'à un moment donné, les Américains ne sont plus anglais, ils ont leur propre philosophie, je pense, qui est particulière.
Puis aussi, il y a une autre contradiction, puis ça, je pense, après ça, on va passer au Patreon, là, mais il y a une autre contradiction vraiment que les gens ne comprennent pas, c'est qu'étrangement, le Québec séparatiste est ce qui garde le Canada uni. Ça fait plusieurs fois que j'explique à d'autres, parce que ce qui se passe, c'est que tu as un groupe qui est assez large, qui te permet de déterminer si oui ou non tu formes une majorité à la Chambre des communes. Sans ce groupe-là, tu ne gouvernes pas. Le Québec agit comme un garde-fou. Avec la menace de l'indépendance, il agit comme un garde-fou contre les intrusions du gouvernement fédéral. Ce qui fait en sorte que le gardien de la Constitution canadienne, étrangement, c'est le Québec. Le Québec est, étrangement, le gardien de la Constitution canadienne. Pas parce qu'il est francophone nécessairement, mais parce qu'il peut raisonnablement brandir la menace de quitter.
Non, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, gardien de la Constitution. Tu chauffes une Camry ou que tu sois à pied, l'argent vaut la même chose. Yann, Vincent et le dédomiseur, s'il vous plaît, expliquez-nous.
Ça va faire 6,45, passez au deuxième guichet, s'il vous plaît.
On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne étude des enfants, les assurances vie, assurances invalidité. Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net, vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.